Quartier San Paolo, dans la banlieue de Naples, au sud de l'Italie. Une cité difficile où vit Raffaele, un petit garçon de 10 ans.
Il est 4h24.
Il s'habille en silence pour ne pas réveiller ses 6 frères et sœurs et sa mère. S'il se lève si tôt et traverse tout seul la cité encore endormie, ce n'est pas pour aller à l'école. À 2 blocs de là, Pasquale et Ernesto l'attendent. Ils ont 18 et 20 ans, ce sont les patrons de Raffaele. Car Raffaele travaille. Il est marchand de primeur ambulant. Il ne va à l'école que 4 à 5 jours par mois. Ses journées de travail commencent au marché de Gros. Ils achètent les fruits et légumes qu'ils revendront dans la journée. Qu'est-ce que vous achetez aujourd'hui ?
Des aubergines, des citrouilles, des choux et des tomates.
Tirer des chariots, charger des cajots, une besogne pénible pour un enfant de 10 ans. Mais Raffaele ne se plaint pas, comme s'il avait intérêt, pour conserver son travail, à faire oublier son jeune âge.
Allez, maintenant vous allez rapporter les chariots. Allez, vas-y. Oubliez pas les citrouilles, hein.
7h du matin, le jour se lève sur Naples. Dans cette métropole de près de 5 millions d'habitants, la plus jeune d'Europe, nous croisons des enfants au travail à tous les coins de rue.
1 euro seulement, allez.
Raffaele n'est pas un cas isolé. Tous ces visages d'enfants nous intriguent.
Ça fera 3,70 €.
En Italie, comme ailleurs en Europe, le travail des mineurs de moins de 15 ans est illégal. Est-ce la crise qui les pousse à quitter l'école ? Ou s'agit-il d'une tradition napolitaine qui ne veut pas disparaître ? Quel est le destin de ces enfants payés au noir ? Risque-t-il de devenir une main-d'œuvre bon marché pour la Camorra, la mafia napolitaine ? Nous allons suivre ces petits travailleurs tout au long de leur journée. Nous commençons ce reportage avec une question. Les enfants de Naples sont-ils en train de déserter l'école ? 8h du matin, un vendredi comme un autre, au collège de Traiano. Les cours ont repris depuis 2 semaines. Pour Paola, la directrice adjointe, c'est encore une mauvaise journée qui commence.
On fait un tour de l'école ? Voyons un peu la situation dans chacune des classes. Bonjour, je peux ? Hilda, tu as fait l'appel ?
Je m'apprêtais à le faire.
Alors faisons l'appel.
Dans cette classe de 6e, 12 élèves seulement sont présents, sur 24, un élève sur 2. Nous allons voir que pour cette école, c'est plutôt une bonne moyenne.
Allez, maintenant, on va faire le tour pour voir la situation dans les autres classes.
Cette fois, dans une classe de 5e.
Alors ici, il y a juste Raffaele qui est là. Bon, d'accord. C'est bien, Raffaele.
Un seul élève, qui du coup a droit à des cours particuliers. Si les classes sont vides, ce n'est pas seulement parce que certains enfants travaillent. D'autres ont préféré rester au lit.
Bonjour les enfants. Bonjour Rosie. Ici, il y en a seulement 2.
Un taux d'absentéisme particulièrement élevé aujourd'hui, qui provoque chez la directrice adjointe une réaction surprenante.
C'est bien, les enfants, d'être venus. Je vous félicite. Et dites-leur à vos copains de venir le matin. Dites-leur que l'école, c'est obligatoire, ok ?
Des élèves félicités pour leur simple présence à l'école. Paola est convoquée chez la proviseure pour une réunion de crise.
Désolée pour le retard.
Oui, on était en train de discuter du taux d'absentéisme de l'année dernière. Ça a atteint 60%.
Pour inverser la tendance, un professeur va proposer une solution désespérée.
Allez-y.
Oui, on était en train de réfléchir à des solutions ensemble. Pourquoi pas réduire le nombre d'heures de cours le matin ?
Raccourcir les heures de cours pour contrer l'absentéisme. Une mesure qui semble inimaginable en dehors de Naples.
Sur 80 enfants, si je récupère seulement 20, j'ai gagné. Parce que l'année dernière, j'en ai vraiment perdu beaucoup. Mais cette année, pas question, je vais les récupérer.
Après la réunion, Paola va croiser deux retardataires et les accueillir plutôt fraîchement.
Dites-moi, mademoiselle, quelle heure est-il ?
9h moins le quart.
Et l'école, ça commence à quelle heure ?
8h.
8h10 maximum.
Toute l'année dernière, ces deux jeunes filles ont régulièrement séché l'école. Nous sommes vendredi, elles ne sont pas venues de la semaine.
Tu dois te lever tôt pour aller à l'école. C'est important.
Donc je ne dois pas sortir le soir ?
Non, tu ne dois pas sortir le soir. Mais d'ailleurs, tu as quel âge, toi ?
13 ans.
13 ans ? Et tu veux déjà vivre la nuit ? Même pas en rêve. Qu'est-ce que tu voudrais faire à la place d'aller à l'école ? Rien ? Dormir ? Et c'est tout ? Quand elle sera grande, elle veut dormir. C'est du beau.
Paola est une des rares qui tiennent le coup ici. La plupart des professeurs ne restent qu'une seule année. Mais elle s'est attachée à ces gamins difficiles.
On se voit demain, on est d'accord ? Dans ma carrière, ça ne m'est arrivé que deux fois de voir d'anciens élèves accéder à l'université. Et le savoir qu'ils étaient allés jusque-là, ça a été incroyable pour moi et vraiment émouvant. Ça n'arrive presque jamais.
10h du matin. Raffaele, le petit marchand ambulant, n'est toujours pas à l'école. Il est en pleine tournée.
Pour vous, mesdames, ce matin, de belles courgettes, de belles scaroles, des choux du Vésuve et des épinards frais.
Ça vous fera 2 euros. 2 euros.
Raffaele connaît tous les prix. À 10 ans, il sait vendre. Il porte les sacs des clientes, aide ses patrons. C'est un petit homme à tout faire. Il ne va à l'école que quelques jours par mois. Mais il n'est pas inquiet pour ses résultats scolaires.
Moi, je préfère travailler. J'ai encore jamais redoublé parce que je suis bon à l'école.
Même si tu travailles, alors comment tu fais ? Tu rattrapes ?
Oui, quand je rate des leçons, je les rattrape la fois d'après, quand j'y vais.
Elle ne te dit rien, la maîtresse ? Et pourquoi ?
Qu'est-ce qu'elle peut me dire, la maîtresse ? Elle peut rien me dire.
Les bons résultats de Raffaele aident à pardonner ses absences. Et elles sont fréquentes. Il travaille 10 heures par jour, jusqu'à 6 jours d'affilée.
Ça fait 1,60€, donne-moi celui-là.
Ça fait combien en tout ?
Ça fait 2,60€, ok ?
Pasquale, son patron, a commencé à travailler à 13 ans. Aujourd'hui, il emploie à son tour un enfant.
C'est très dur pour un enfant, ce travail. Très, très dur.
Tu le trouves courageux ?
Oui, il est vraiment volontaire. Un océan de fraîcheur pour vous, madame !
La tournée est presque terminée. Sur le perron d'une maison, un garçon qui, lui aussi, devrait être à l'école à cette heure-ci. Il a plutôt l'air de se réveiller. Il s'appelle Alessio. Il a 13 ans. C'est un copain de Raffaele. Nous reviendrons le voir. Raffaele, lui, est debout depuis plus de 7 heures. Mais il tient le coup. 14 heures. Encore une bonne journée qui s'achève. Du haut de ses 10 ans, le petit garçon se voit déjà à la place de son patron.
Moi, quand je serai grand, je veux avoir une société avec un copain. Il y en aura un qui tiendra notre magasin de produits d'entretien et l'autre qui vendra des fruits.
T'es pas crevé, Raffaele ?
Non.
Non, il est pas crevé. Allez, à demain. Et vas-y, mollo, hein. Va te coucher tôt, parce que demain, on recommence.
Le salaire de Raffaele est plus que dérisoire. 10 euros par semaine pour 50 à 60 heures de travail. L'argent, il le donne à sa mère. Nous avons rendez-vous avec elle dans l'après-midi. En attendant, Raffaele retrouve ses copains pour jouer et vivre sa vie d'enfant. Ici, pas de square, ni de terrain de foot. Les enfants qui grandissent dans la banlieue de Naples jouent dans la rue. Parmi les gamins du quartier, Alessio. Il n'a pas beaucoup de temps l'après-midi, car à 16h, lui aussi doit aller travailler. Tous les après-midi, Alessio aide son oncle Alfredo.
Allez, pousse-toi, Alessio.
Alfredo est au chômage depuis toujours, mais tous les matins, il ramasse des moules dans la baie de Naples.
Tiens, tiens. Trois euros. Tu me le mets sur la note.
Comme les deux jeunes filles croisées ce matin au collège, Alessio est un adepte de la grasse matinée. Et l'école, il n'y voit aucun intérêt.
Parce que ça me saoule de me lever tôt. Après aller à l'école, rentrer là-dedans, faire ses leçons et tout ça. Ça me saoule encore plus.
Ça sert à quoi l'école ?
À apprendre, mais...
À Naples, ça sert à rien, parce que t'apprends rien. T'étudies, tu passes des diplômes, et puis après, t'as pas de travail.
Alessio a 13 ans. Il a déjà redoublé deux fois. Il devrait être en quatrième.
Je te mets un sac.
Ouais. C'est combien ?
3.
3 euros ? Tiens. Allez, salut !
Contrairement à Raffaele, le petit vendeur de légumes, il n'est pas très à l'aise avec les chiffres.
Quand je travaille, j'arrive à compter les sous, rendre la monnaie, tout ça je sais faire. Mais si je dois aller à l'école et faire par exemple les soustractions, tout ça, non, je sais pas.
En fin d'après-midi, Maria, la mère d'Alessio, passe devant le stand sans un regard pour son fils. Et puis, quelques instants plus tard, elle vient nous expliquer son inquiétude.
J'aime pas qu'il reste comme ça dans la rue. Moi, je voudrais qu'il aille à l'école, qu'il s'instruise, je ne sais pas, qu'il passe son bac, qu'il ait une bonne situation, toutes ces choses-là.
Maria a 30 ans, 4 enfants, elle est au chômage. Forcer son fils à aller à l'école, elle a baissé les bras.
L'école m'appelle pour dire qu'il n'y va pas. On lui fait la guerre. Mais il n'y a rien à faire. Ça mène à quoi de rester dans la rue ? Est-ce que tu t'es seulement posé la question ?
Est-ce parce qu'Alessio est touché par l'inquiétude de sa maman ? Le garçon décide de nous montrer son école. Derrière ces murs délabrés, le collège où il devrait aller.
Ça m'a un peu serré le cœur.
Pourquoi ?
Parce que quand maman est triste, je sais pas. Ça m'impressionne. Et donc je pense que je vais aller à l'école demain. Mais le jour d'après, on verra.
Comme Alessio, c'est vers 13 ans que beaucoup d'enfants napolitains des quartiers difficiles quittent définitivement l'école. 18h, nous retrouvons Raffaele. Contrairement à Alessio, le petit vendeur de fruits tient à garder coûte que coûte un lien avec son école. Malgré le bruit à la maison et sa fatigue, il commence un exercice de maths.
Relie les opérations à leurs résultats.
Rien n'est simple dans sa vie. Sa mère n'est allée à l'école que pendant 2 ans, alors difficile de l'aider.
Je ne sais pas faire ces trucs-là. Les multiplications et les divisions. Par contre, j'arrive à faire les additions parce que quand j'avais 10 ans, je vendais des fruits avec mon père. C'est bien beau l'école, mais ça coûte cher. Il y a les livres, il y a les droits d'inscription, sans parler de l'école supérieure.
Patricia doit nourrir seule une très grande famille. 7 enfants, 2 belles filles, un petit-fils. Tous sans revenus et à sa charge. Elle est femme de ménage, gagne 150 euros par semaine. Le seul à l'aider financièrement, avec ses 10 euros hebdomadaires, c'est Raffaele. Le gamin préfère en rire.
Regarde tout ce que je gagne.
Et agite une liasse de billets de Monopoly.
Lui, au moins, il travaille, il me ramène de l'argent. 5 euros, 10 euros, ça dépend des fois.
20 heures. Fin de journée pour Alessio, le petit vendeur de moules.
Alfredo, tu peux couper le robinet ?
Comme son copain Raffaele, il gagne 10 euros par semaine. Ce soir, il va s'offrir une friandise avec l'argent qu'il vient de recevoir. Alessio est un peu gourmand. Il nous a dit qu'il donnait le reste de son salaire à sa maman. Comment peut-on, en Europe, laisser autant d'enfants sortir du système scolaire? Nous avons rendez-vous avec un éducateur des rues. Cela fait plus de 10 ans que Mimo sillonne les quartiers populaires de Naples pour tenter de remettre ses gamins des pavés sur le chemin de l'école.
Tu t'es pas inscrite à l'école?
Non, j'y vais pas, ça me saoule.
Pourquoi?
Parce que je ne veux pas y aller, je voudrais travailler.
Qu'est-ce que tu voudrais faire?
Esthéticienne. Mais seulement si quelqu'un m'embauche tout de suite. Ça me gonfle d'étudier.
Mais tu sais que pour faire ça, il faut aller à l'école d'esthéticienne.
Devant ses enfants réfractaires à l'école, Mimo se sent désormais impuissant. Il n'aurait plus les moyens de travailler. Pour nous le prouver, il nous entraîne dans un centre d'accueil de jour pour enfants difficiles. Il y travaillait jusqu'à l'année dernière, avec Ricardo, le responsable. Aujourd'hui, faute de budget, tout est fermé.
Salut Ricardo.
Salut Mimo.
Comment ça va?
Oh, ça va pas du tout.
Toujours rien?
Hélas, tout est encore au point mort.
Bon, les gamins sont comme des fous.
Je sais, ils sont venus aussi ici, il y a même des parents qui viennent. Mais tant qu'il n'y a pas une décision officielle, on ne peut rien faire.
Ici, les éducateurs apprenaient à lire aux enfants déscolarisés. Ils leur permettaient de jouer au foot et leur offraient un cadre, à défaut d'école. Aujourd'hui, tous ces gosses se sont évanouis dans les ruelles de Naples. Et ce n'est pas tout. La crise économique a eu une autre conséquence, cette fois pour Mimo, et une conséquence de taille. Comme beaucoup d'éducateurs à Naples, cela fait un an et demi qu'ils travaillent gratuitement.
Depuis mai 2011, nous n'avons pas été payés, ni par la ville, ni par la région. Donc je suis moi aussi en difficulté, comme les familles dont je m'occupe. Je ne peux plus subvenir aux besoins de ma famille. Je travaille pour la gloire, mais ce n'est pas la gloire qui va nourrir mes enfants. Moi peut-être, mais pas mes enfants.
Le mois prochain, Mimo quittera Naples pour un emploi d'assistant social, cette fois payé, dans le nord de l'Italie. Les enfants de Naples devront s'en sortir sans lui. Si les services sociaux n'ont plus de moyens, qui s'occupe de ces enfants? Nous partons poser la question aux officiers de la brigade des mineurs, à la police de Naples. L'absentéisme scolaire, ils connaissent. Des piles et des piles de dossiers non traités.
Regardez sur notre étagère tous ces documents qui nous arrivent continuellement. Ils sont tous en attente. On manque énormément d'hommes et de moyens pour faire ce genre de boulot.
La brigade des mineurs a d'autres priorités que de ramener les enfants à l'école. Les éloigner des trafics de drogue, par exemple.
On vient d'avoir un signalement, un gamin de 11 ans repéré dans une situation de trafic de drogue. On doit aller vérifier que ce gosse se trouve toujours dans la zone et voir s'il est en relation avec d'autres délinquants.
Direction Scampia, le plus grand supermarché de la drogue d'Europe. Une zone de non-droit où les journalistes ne s'aventurent jamais seuls. Ces bâtiments dégradés s'appellent les vélés, les voiles en italien. Ils devraient être détruits, mais ils sont squattés et sous le contrôle de la Camorra. Ici, les gamins ne vont pas à l'école. Les plus petits vivent cachés, surveillent le territoire en permanence. Les Napolitains les appellent les moucherons. Un des policiers en surprend un, qui s'évapore aussitôt dans les escaliers.
Il nous a déjà repérés. Il a déjà donné l'alerte et donc, momentanément, vu qu'on est là, le commerce s'arrête pendant quelques minutes. Ensuite, ça reprendra quand on repartira.
La Camorra n'a aucun mal à recruter ses enfants. Dès 11-12 ans, elle leur propose un travail, un salaire.
Ils sont attirés par une vraie paye. Une paye à la semaine, un scooter, un portable et la possibilité de gagner facilement l'argent que leur famille ne pourrait jamais avoir.
D'après la police, une fois embrigadés, les gamins les plus débrouillards montent les échelons très vite. Transport de stupéfiants et même, parfois, tueurs à gages. L'enfant recherché semble avoir quitté la zone. Les policiers repartent. Ils croisent des motards.
Ce sont des collègues, c'est une patrouille volante.
Ces jours-ci, à Scampia, la tension est extrême. La police anti-gang est présente à tous les coins de rue.
Il y a eu des règlements de compte, des meurtres, et ça a créé de fortes tensions entre les trafiquants. D'habitude, ils sont plus calmes. Disons qu'en ce moment, il y a un peu de désordre.
Il y a une guerre de clans ?
On va dire ça, oui.
Une guerre des gangs a explosé depuis quelques jours. Les policiers nous montrent les mineurs qui sont à leur poste de surveillance. Comme cet enfant au t-shirt blanc, qui traverse devant nous et avertit de notre présence le groupe d'adultes cachés entre les voitures. Ou bien derrière ces buissons, ce jeune qui monte la garde devant un lieu de revente de drogue. Mais l'enfant de 11 ans qu'il recherche reste introuvable. Quartier Segondigliano. C'est ici que travaille Giovanni, 13 ans. Il est vendeur de cigarettes à la sauvette. À Naples, ce trafic est contrôlé par les camorristes. Mais l'enfant n'a aucun contact avec eux. Nous ne sommes pas certains qu'il ait conscience de l'illégalité de son travail. Tu les vends combien ?
Par exemple, celle-là, elle coûte 2,50 €. Et les autres, 3 euros. C'est des cigarettes qui sont...
Elles sont moins chères que les autres ?
Ouais, celles-là, elles sont plus mauvaises.
Giovanni gagne 30 euros par semaine. Trois fois plus que Raffaele et Alessio, les autres garçons que nous avons rencontrés. Michele est son patron. C'est lui qui achète les stocks de cigarettes aux contrebandiers. Mais c'est Giovanni qui vend, car à 13 ans, il ne risque pas la prison.
Je me fatigue pas trop.
Tu t'assois ?
Je m'assois. Je vais chercher les stocks de cigarettes avec mon vélo. C'est pas si mal. De toute façon, j'ai pas le choix.
Depuis l'année dernière, Giovanni ne va plus à l'école, car sa famille a besoin de son salaire. Il travaille ici tous les jours de la semaine, matin et après-midi, en tout 9 heures par jour. Il est 13 heures, c'est l'heure de la pause. Giovanni remballe. Il rentre déjeuner chez lui.
Tiens, c'est pour toi.
C'est bon, maman.
Sa mère est femme de ménage. Elle gagne 30 euros par jour. Son père ne travaille pas. Des quatre enfants de la famille, Giovanni est le seul à l'aider financièrement. Emilia, la grande sœur de Giovanni, est au chômage. Elle a 16 ans. Elle aussi a quitté l'école trop tôt, à 13 ans.
Moi, j'adorais étudier le français.
En fait, je sais même dire des choses en français, mais après, je suis tombée enceinte et je n'ai plus rien fait. Mais moi, j'aimais bien l'école. Je rêvais d'aller à Paris pour être hôtesse de l'air, mais bon, tant pis, ça fait rien.
Giovanni, lui, n'aimait pas trop l'école. Il a toujours préféré dessiner. L'après-midi, pendant sa pause, c'est son passe-temps.
Quand il allait à l'école, il ne faisait que dessiner. Par contre, lire et écrire, ça, c'était pas son fort. Il n'était pas doué en lecture.
Véronica a 11 ans. Pour l'instant, elle va toujours à l'école.
Toi, tu dois y aller à l'école, hein, si tu veux devenir esthéticienne. Faut y aller, hein. Et je ne veux pas que tu me dises « oui, oui, je vais y aller » pour qu'après tu n'y ailles pas. J'espère, hein.
Maman, je descends.
16h. C'est l'heure pour Giovanni de retourner travailler. Aujourd'hui, c'est vendredi. Ce soir, il aura sa paye.
Alors, on va payer la facture, mon ange. Donne-moi les 30 euros. Avec ça, on va pouvoir payer la facture en retard.
C'est comme ça toutes les semaines ?
Oui, c'est comme ça toutes les semaines. Cette semaine, on va payer celle-ci. Tiens, c'est toi qui vas la payer.
Je dois l'aider. Sinon, on ne mange pas.
Comme un adulte responsable, Giovanni, à 13 ans, descend payer la facture d'électricité de sa famille. Quand il va grandir, la Camorra risque de lui proposer d'autres missions, bien mieux payées, comme transporter de la drogue. Que fera alors sa mère ?
On a toujours besoin d'argent. Vous avez vu la situation de notre famille. Mais je ne veux vraiment pas qu'il fasse ça un jour. J'ai vraiment peur. S'il commence à vendre de la drogue, qu'est-ce qu'il va devenir ? Un enfant qui n'a même pas 14 ans qui ferait un truc pareil ?
La mère de Giovanni essaiera sans doute de protéger son fils de la criminalité. Mais les autres enfants, qui veille sur eux pour les éloigner de la Camorra ? Dimanche matin, devant l'église San Carlo, nous attendons le prêtre anti-Camorra le plus célèbre d'Italie. Celui que les Napolitains surnomment le sauveur des enfants perdus. Don Luigi Merola est sous protection 24 heures sur 24. Parce qu'il fait tout pour couper les liens entre la Camorra et les enfants napolitains, l'organisation criminelle veut sa mort. Par deux fois, le prêtre a échappé au tir des camorristes. Avant de célébrer la messe, comme chaque semaine, il reçoit des familles au presbytère. Elles font la queue pour lui demander de l'aide.
Allez en paix.
Don Luigi Merola reçoit deux femmes dans son bureau. Il nous permet d'enregistrer la conversation.
Mon mari travaille au port de commerce, mais depuis le mois de décembre, il n'est plus payé.
Ah, il n'est plus payé.
Donc avec trois enfants et avec cette situation très critique, voilà les factures. Trois factures en retard.
Bon, on va voir si on peut te donner de l'argent.
Le prêtre a promis de payer les factures de cette famille. C'est le secret de sa lutte anti-Camorra.
La Camorra paye les loyers, elle donne du travail. Et si on veut casser cette dépendance, c'est à nous, l'Église, de payer.
En sauvant ainsi des dizaines de familles de la puissance financière de la Camorra, Luigi Merola a évité à leurs enfants de tomber dans l'illégalité. Il est devenu le héros des plus jeunes à Naples. Et dans son sermon, il s'adresse à eux.
Depuis peu, vous avez recommencé l'école. Vous devez prendre soin de votre éducation, de votre formation. Vous devez arriver à l'heure à l'école. Obéir à votre famille. C'est ça la lutte contre la Camorra.
Dans cette villa, confisquée à un ancien boss de la Camorra, Don Luigi Merola abrite les quelques dizaines d'enfants qu'il a sauvés des griffes de la criminalité organisée. Ceux-là ne travailleront pas avant l'âge adulte ou ne deviendront pas dealers. Sport, danse, musique, ce jeune prêtre sait mieux que personne ce qui peut attirer ses enfants et leur donner envie d'apprendre.
Moi, je suis né gamin des rues et je continue à être un gamin des rues. Un prêtre n'oublie pas ses racines. Je ne les oublierai jamais. Mes racines, je les utilise pour faire le bien.
Fin d'après-midi, nous retrouvons Raffaele, le petit vendeur de fruits, en compagnie de son copain Mario.
Allez, viens, on va s'acheter une glace. C'est moi qui l'offre.
Tiens, Raffaele, je t'ai mis de la crème.
Non, c'est pour Mario. Tiens, Mario. Oh.
S'il s'offre un extra après le travail, le petit garçon continue à être raisonnable. Il a même des rêves singuliers.
Moi, quand je serai grand, si je suis riche un jour, je vais aider les pauvres.
Pourquoi ?
Parce qu'ils me font de la peine à rester dans les gares et dans les rues à dormir.
Les petits travailleurs de Naples, des enfants qui grandissent trop vite.